superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc, bonjour.
Bonjour, Non, Benoît, on recommence. Bonjour, Benoît.
Merci. Mise à jour en Ukraine.
Ça va mal en Ukraine. Il y a ce barrage qui vient de céder, grand barrage sur le grand barrage de Kharkova, sur la Dnipro, et on ne sait pas ce qui est arrivé exactement. Ça fait un an qu'on parle de ce barrage, en fait. Je t'en avais parlé l'année dernière, on avait dit « Ah, mais si jamais ça cède, ça va être une catastrophe », parce qu'il était question que les Russes le fassent sauter. Ce barrage a cédé, et on ne sait pas pourquoi au juste. Il y a des images qui montrent qu'il y a quelques jours, le barrage avait en partie cédé, donc c'est possible que l'eau ait fini par emporter une plus grande partie du barrage. C'est possible aussi que on l'ait fait sauter, auquel cas, c'est soit les Russes qui ont fait ça, soit les Ukrainiens. Évidemment, il y a un débat. On se dit à qui ça profite le plus. On cherche à qui le crime profite pour savoir qui l'a fait. Et si tu veux, on a vraiment l'impression que c'est plutôt les Russes qui en profiteraient. Parce que même si la Dnipro approvisionne la Crimée, les Russes ont construit de grands réservoirs en Crimée et ces réservoirs sont pleins à 80%. Même si une partie des fortifications russes ont été emportées, ce que ça fait surtout, c'est que ça va élargir le fleuve et ça va rendre sa traversée beaucoup plus difficile par les troupes ukrainiennes. Et en plus de ça, c'est des installations qui sont précieuses pour les Ukrainiens parce que ça fournit de l'électricité, etc. Donc on a vraiment l'impression que c'est plutôt les Russes qui ont fait ça, d'autant plus que c'est les Russes qui étaient sur ce barrage, c'est eux qui avaient ce barrage et il y a plusieurs services de renseignement à travers le monde qui disent qu'en réalité, le barrage a été miné par les Russes, avait été miné par les Russes dès l'année dernière et qu'il suffisait plus que de le faire sauter. Donc, si tu veux, les Russes sont vraiment soupçonnés d'avoir fait ça. Ouais. D'ailleurs, Zelensky, le président des Zelensky, a demandé au Conseil de sécurité de se réunir, et c'est ce qu'il va faire. Mais, il y a quand même le problème de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qui se pose. Et cette centrale nucléaire est refroidie par de vastes bassins qui contiennent de l'eau qui est puisée dans le réservoir de la Dnipro. Or, ce réservoir n'existe plus. Il vient de l'eau est tombée de plusieurs mètres. On ne peut plus s'en servir. Donc, il reste l'eau des réservoirs. Et si tu veux, c'est cette eau qui sert à refroidir les 6 réacteurs nucléaires qu'il y a à Zaporizhzhia. Ces réacteurs sont arrêtés. Mais il faut continuer à les refroidir. Mm-hmm. Parce que si on les refroidit pas, ils vont chauffer. Et attention, ça peut, disent les experts, créer une catastrophe pire que celle de Tchernobyl. Donc, on est à un seul élément. Il y a un élément clé là qui empêche que ça arrive. C'est que l'eau dans ces grands réservoirs soit encore là pendant quelques temps. On pense que ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il faut absolument qu'on trouve une manière de remettre de l'eau dans ces bassins, parce que sinon, ce qui va se produire, c'est que cette centrale de Zaporizhzhia risque vraiment d'exploser. Et c'est la faute des Russes. Je suis désolé, là, mais en fin de compte, c'est les Russes qui sont là. C'est les Russes qui gèrent tout ça. C'est les Russes qui ont cette responsabilité-là.
Mais ça peut pas être la politique de la terre brûlée, Loïc, là. Tu sais, les Russes, ils veulent le territoire, là. Ils vont pas le saccager puis le rendre, rendre radioactif.
Ce que disent les experts de l'histoire militaire, c'est que les Russes ont toujours combattu comme ça. Tu sais, depuis Napoléon, tu te souviens, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont brûlé Moscou. Ouais. Ils ont brûlé Moscou parce qu'ils voulaient pas que Napoléon conquière la Russie et ça a fonctionné. Napoléon pensait jamais que les Russes feraient ça, mais ils l'ont fait. C'est ça qui l'a fait perdre. En même temps, t'as d'autres moments qui sont très décisifs. Tu te souviens d'Hitler qui avait demandé à ce que les nazis brûlent les villes dont ils se retiraient, Paris entre autres. D'où le film Paris brûle-t-il?
Ouais.
C'est parce que le responsable, le général qui était responsable de Paris, a refusé d'obéir aux ordres d'Hitler et de faire brûler la ville. Donc, quand on se trouve dans des situations comme ça, que t'es dans des régimes qui sont des régimes autocratiques, dictatoriaux, que tu as des dictateurs qui sont à la tête de ces pays, ben oui, ils peuvent prendre dans des situations désespérées, ils peuvent prendre des décisions qui sont désespérées. Et je ne sais pas si vraiment ce barrage, est-ce qu'il a cédé parce qu'il avait été attaqué auparavant, puis finalement la brèche a fini par s'élargir. Est-ce que c'est les Russes qui l'ont fait sauter? C'est ce que croient les Ukrainiens, c'est ce que croient la plupart des dirigeants du monde, c'est ce que croient les dirigeants à l'OTAN aussi pour le moment. Mm-hmm. Mais si okay. c'est ça qui est arrivé, on fait face à un crime contre l'humanité, et attention, ça veut dire que le pouvoir de Poutine commence à être dangereux pour l'humanité, parce que c'est bien sûr que les conséquences en effet de domino qui vont être provoquées par ça peuvent être immenses si on pense encore une fois à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Okay. Donc oui, c'est grave ce qui s'est passé là.
Parfait, on passe à Mike Pence parce qu'on va manquer de temps. Mike Pence qui se voit président des États-Unis.
Oui, qui va annoncer demain sa candidature. Mike Pence, donc, qui est l'ancien gouverneur de l'Indiana, qui était le vice-président donc de Donald Trump. Et c'est grâce à lui, en grande partie, qu'il n'y a pas eu de coup d'État aux États-Unis, parce que lui a respecté la Constitution, et Trump voulait qu'il viole la Constitution pour qu'il soit reconnu, Trump, comme victorieux lors des élections présidentielles, des deuxièmes élections présidentielles. Donc, il se présente, mais il vient se rajouter à une foule absolument incroyable de gens qui se présentent. Ils sont une dizaine. Il y a Chris Christie qui doit se présenter dans les jours à venir. Et tu sais, on l'a déjà dit, plus il y a de gens qui se présentent, plus ça donne des chances à Donald Trump d'être élu à l'investiture. Parce que dans le Parti républicain, celui qui remporte le vote, c'est celui qui a le plus haut score parmi tous les candidats. Mmh. Donc, il pourrait avoir, je sais pas, moi, il pourrait avoir 20% du vote. Si les 10 autres candidats se répartissent le 80 qui reste, ben, ça va être Trump qui va représenter tous les délégués du Parti républicain dans cet État-là vont aller à Donald Trump. Et donc, on s'en va de plus en plus vers ça, vers une grande victoire de Donald Trump de l'investiture.
On aurait été avertis. Et puis, avant qu'on se quitte, c'est quoi cet hippodrome de Singapour?
Singapour, c'est une petite ville, hein. C'est grand comme Montréal et Laval ensemble. Enfin, une petite ville, c'est un petit État. C'est pas très grand, ça fait un peu plus de 700 km². Et il y a un hippodrome qui est très connu là-bas, qui a été fondé il y a 180 ans et qui malheureusement va fermer parce que cet hippodrome prend de la place et qu'on a besoin de terrain à Singapour. Donc l'année prochaine, il va donner cet hippodrome son 100e trophée d'or, donc en 2024, et ça va fermer. Et ça marque un peu la fin d'une ère, parce que c'était les Britanniques qui avaient installé ça. C'était quelque chose qui était très connu à Singapour, mais la crise de la population est très très forte. Il y a plus de 6 millions d'habitants sur ce petit territoire de 700 km². Bon. Alors, ils ont besoin des terres de l'hippodrome et ils vont construire des habitations, des logements, etc.
Et bien, il y a ici Blue Bonnets aussi, là, on cherche à
développer.
C'est pour
ça que je t'en parle aussi, parce que il y a Blue Bonnets qu'on va reconvertir. Nous, on a beaucoup de terres tout autour de Montréal, etc. Mais oui, on veut reconvertir ça. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je me méfie beaucoup des architectes qui font ce genre de choses. Moi, je pense que il faut créer des lieux où les gens vont vivre, où il va y avoir des magasins, des rues, etc. Si possible, pas de grandes tours, ce serait très, très, très laid. Mais tu sais, les promoteurs immobiliers veulent faire beaucoup d'argent le plus rapidement possible, d'accord, en investissant le moins possible.
Mmh. Donc, t'as assez, merci. À demain.
Salut, Anne.